First, everyone understands.
Tout le monde doit savoir que je n'ai rien à voir dans le meurtre de Nicole.
Murder. I loved her. Always.
Je l'aimais, je l'aimerai toujours.
If we had a problem,
si nous avions des problèmes, c'est parce que je l'aimais trop.
Bonsoir, un double crime atroce, une course-poursuite digne d'un film d'action, le procès du siècle, un verdict suivi par 100 millions de téléspectateurs. Rien n'est normal dans l'affaire O.J. Simpson, tout est démesuré, extravagant et spectaculaire. À l'été 1994, cette ancienne star du football américain, l'une des personnalités les plus populaires aux USA, acteur et invité permanent des shows télé, est soupçonnée du meurtre de son ex-femme et d'un employé de restaurant. Tout semble alors accuser O.J. Simpson, tant les indices recueillis sur la scène de crime, les témoignages convergent contre lui. L'enquête se focalise sur cette célébrité. Impossible alors d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse être l'auteur de cette tragédie. Va alors commencer un feuilleton judiciaire qui va durer 18 mois et au cours duquel l'accusé va jouer son destin. C'est cette histoire hors norme que nous allons explorer ce soir avec nos invités et essayer de savoir pourquoi, malgré les enquêtes et contre-enquêtes, la vérité n'a pas jailli dans cette affaire. Les doutes sont toujours là, mais plus de 25 ans après les faits, la justice américaine ne peut toujours pas mettre un nom sur l'homme qui a tué Nicole Brown et Ron Goldman.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire O.J. Simpson, été 1994, cette célébrité du football américain et des plateaux télé va bientôt apparaître dans la rubrique judiciaire après une longue découverte morbide dans un quartier chic et tranquille de Los Angeles. Ce dimanche 12 juin 1994, aux alentours de 22h15, Denise Pilnack, qui fait son jogging dans les rues propres et silencieuses du quartier de Brentwood, perçoit les aboiements répétés d'un chien. Derrière une clôture, une villa sur Bundy Drive. Elle n'est pas la seule à entendre cet animal qui a attiré l'attention de plusieurs voisins. Trois quarts d'heure plus tard, un chien errant est aperçu dans cette même avenue. C'est un Akita, un animal de race japonaise. Il semble affolé. Ses pattes sont maculées de sang. Un couple de résidents, Sukru Bozlepe et Bettina Rasmussen, le prend en charge. Le chien veut sortir comme s'il voulait retrouver son maître. On le tient en laisse, il fait 200 mètres à peine, puis marque l'arrêt devant le 875 South Bundy Drive. Le couple passe une tête au-dessus de la clôture. La maison n'est pas éclairée, mais dans l'allée, on distingue clairement une immense flaque de sang. Une rivière de sang, dira le couple. Le 911, le service d'urgence est alerté. Les premiers policiers sur les lieux découvrent le corps d'une femme, poignardée plusieurs fois à la tête et au cou. La gorge a été tranchée alors que la victime, semble-t-il, était déjà morte. Un homme gît un peu plus loin, près d'un arbre, lacéré de coups de couteau, à la poitrine et au cou. Les victimes sont Nicole Brown, 35 ans, et Ron Goldman, 25 ans. Ron est serveur dans un restaurant proche, le Mezzaluna. Il avait ce soir-là rapporté une paire de lunettes oubliées par cette cliente, une habituée, après le dîner. Nicole Brown est loin d'être n'importe qui. C'est l'ex-épouse de la star du foot et de la télé, O.J. Simpson, 46 ans. Le couple a deux enfants, Sidney et Justin, et a divorcé deux ans plus tôt. Les anciens époux qui habitent à un kilomètre l'un de l'autre se sont vus dans la journée. Ils étaient allés récupérer ensemble leur fille Sidney à son cours de danse. Nicole Brown, qui a la garde des enfants, a dîné ensuite de son côté au Mezzaluna. Son ex-mari a dîné, lui, avec un ami dans un autre établissement. La police apprend que O.J. a pris un vol le soir même pour Chicago, où il doit participer à un tournoi promotionnel de golf. Il est joint à son hôtel, il est sous le choc, mais ne demande à aucun moment de quoi est morte Nicole. Détail qui met aussitôt la puce à l'oreille des policiers. Bonsoir Nicole Bacharan.
Bonsoir.
Historienne et politologue, spécialiste évidemment des États-Unis. Votre dernier livre, je le cite, First Ladies, avec Dominique Simonet, qui est paru aux éditions Timpus. Alors on est là, Nicole Bacharan, au tout début de l'affaire, et évidemment on va la dérouler, cette enquête qui ne fait que commencer. On est dans les toutes premières minutes, les premières heures de cet horrible fait divers. Question toute simple, qui est O.J. Simpson? Il est important aux États-Unis. Très connu.
O.J. Simpson aux États-Unis, moi je vivais aux États-Unis à ce moment-là, c'est vraiment une énorme star. parce que ça a été un grand champion de football américain, le leader des Buffalo Bills, qui sont une des équipes les plus importantes. Et quand sa carrière sportive s'est terminée, il est devenu présentateur de télé, commentateur sportif, acteur. Il fait énormément de publicité. Oui, c'est vraiment une des personnes les plus connues aux États-Unis, sans aucun doute.
Il est très populaire à la télévision.
Très populaire.
On le voit partout dans des pubs. Hein. Là, d'ailleurs, à ce fameux tournoi de golf, il était parti pour une firme de location automobile pour aller jouer au golf. 7 ans de mariage avec Nicole Brown, l'une des deux victimes. Et puis un divorce qu'il ne voulait pas. Ça, c'est de notoriété publique.
Et c'est son deuxième divorce. Il a été marié, il s'est marié jeune, il a eu 2 enfants, il a divorcé. Il s'est remarié avec Nicole Brown, qui était un petit peu son idéal féminin. Une très belle femme, une blonde californienne. Vous savez, un look de surfeuse, un petit peu. Vraiment très jolie. Et ça a joué un rôle. Ils ont eu 2 enfants. Elle a demandé le divorce. Et la base essentielle, c'était les violences. Les violences qu'elle a subies et qui ont été pour certaines dénoncées à la police, photographiées, enregistrées. Donc il n'y avait pas de doute sur la cause du divorce. Lui ne voulait pas divorcer.
Alors c'est important ces violences parce qu'elles vont être un peu en fil rouge de cette enquête et même du procès. On verra ce qu'elles vont devenir et ce que les juges vont retenir de ces violences. Mais c'est vrai que c'est un élément important qui va peser énormément dans cette affaire. Philippe Coste, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et correspondant aux USA. Vous connaissez évidemment parfaitement ce pays et évidemment parfaitement cette affaire. Ça se passe, cette tuerie, si je puis dire, ces deux personnes abattues dans un quartier plus que résidentiel. Brentwood, c'est quoi? C'est un peu le Neuilly de Los Angeles?
Oui, ce serait le Neuilly. Oui, considérable, aussi chic et aussi cher que Beverly Hills, par exemple, ou Bel Air, mais considérablement plus de meilleur goût, disons. C'est un quartier résidentiel qui où ont été logés beaucoup de stars, dont Marilyn Monroe, Arnold Schwarzenegger aussi, enfin de nombreuses stars, mais qui a une réputation plus de tranquillité, moins fêtarde, moins clinquant.
Ce qui ajoute, Philippe, si je puis dire, ce qui ajoute à l'atrocité presque de cette scène, on s'y attend pas à cet endroit à trouver deux personnes tuées de cette manière.
Oui, c'est un quartier qui est en général gardé par des milices privées, enfin des gardes privés. Il y a des villas énormes, beaucoup d'argent. Il est évident que ce n'est absolument pas un endroit où on peut commettre un meurtre comme on le ferait à South Central ou dans des quartiers pauvres et autres. C'est très très rare. C'est très très rare. Et justement, ça ajoute au choc, hein, dans une sorte d'enclave de quiétude, de richesse et autres. Un meurtre de ce niveau d'atrocité, effectivement, c'est un grand choc à Los Angeles.
Nicole Bacharan, vous êtes d'accord avec ça? Les États-Unis, c'est le pays de la violence. On est habitué aux fusillades,
oui,
etc. Mais là, ça frappe vraiment les imaginations.
C'est vrai que toute mort est catastrophique. Mais il y a un caractère particulier. C'est pas une fusillade entre gangs avec des armes à feu dans un quartier comme ceux qu'évoquait Philippe, comme South Central par exemple. C'est vraiment dans un quartier très tranquille, un meurtre au couteau d'une violence inimaginable.
O.J. Simpson rentre immédiatement à Los Angeles. Avant même de remettre un pied dans le quartier de Brentwood, il fait déjà figure de suspect. Son passif familial violent avec Nicole ne prêche pas en sa faveur. Lundi 13 juin 1994, lendemain du double crime, O.J. Simpson a à peine poussé la porte de son domicile au 360 Rockingham Avenue qu'il est aussitôt menotté par un policier. Son avocat, Howard Weitzman, obtient aussitôt qu'on lui ôte ses bracelets. Simpson est embarqué dans une voiture direction le commissariat central de Los Angeles Downtown. Il doit être entendu en qualité de témoin. O.J. Simpson dément toute implication dans le double homicide. La veille au soir, il a embarqué à 12:45 pour Chicago. Il avait réservé ce vol depuis 5 jours. Auparavant, un chauffeur de limousine était venu le chercher pour l'emmener à l'aéroport à 22h25. Il n'avait trouvé personne à la maison. À 22h40, il avait sonné, pas de réponse, jusqu'à ce que, enfin, OG se manifeste. Sur le trajet, le chauffeur avait noté que l'ex-footballeur transpirait anormalement et ne voulait pas se séparer d'un sac à dos. Les quatre policiers chargés des investigations font le tour de la scène de crime. Un gant ensanglanté, main gauche, est découvert près du corps du jeune serveur de restaurant. L'inspecteur Marc Furman trouve le deuxième gant, également ensanglanté, dans la propriété d'O.J. Simpson. Le Ford Bronco de l'ex-footballeur est lui aussi maculé de sang sur une portière, suffisant pour mettre en accusation le témoin. 5 jours après le double crime, vendredi 17 juin à 8h30, les enquêteurs téléphonent à Robert Shapiro, pointure du barreau et nouvel avocat d'O.J., pour l'informer que celui-ci doit se présenter au commissariat. Le rendez-vous est fixé à 11h du matin. Mais Simpson ne donne pas suite. Les policiers ne le trouvent ni chez lui, ni dans la villa discrète de San Fernando, mise à disposition par ses avocats. Le témoin numéro 1 est aussitôt visé par un mandat d'arrêt. À 17h, le juriste Robert Kardashian lit une lettre que lui a transmise son ami OG. « J'ai eu une belle vie, de bons amis. Souvenez-vous du vrai OG et pas de cette personne perdue. » Un mot qui a tout d'un testament. Une heure plus tard, Simpson est repéré dans une voiture sur l'autoroute. Il est assis à l'arrière. Le véhicule est conduit par un ami, Al Collings. OG tient une arme qu'il pointe parfois sur le chauffeur ou qu'il pose sur sa tempe. La course-poursuite, filmée par une nuée d'hélicoptères, retransmise en direct par toutes les chaînes de télé, dure 2 heures. OG Simpson rentre enfin chez lui. Il va rester prostré pendant 45 minutes dans la voiture à 21h37. Il franchit la porte du commissariat central, d'où il ne ressortira pas. Voilà donc pour l'arrestation de O.J. Simpson, spectaculaire. Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis et qui est ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Vous êtes dans le studio de l'heure du crime. Un mot sur cette incroyable course-poursuite. Je crois que vous étiez aux États-Unis, vous l'avez suivi par minute.
C'était l'époque de ma vie où je vivais à Houston, au Texas, et je m'en souviens comme si c'était hier. Parce qu'effectivement, toutes les chaînes de télévision ont interrompu tout leur programme pour retransmettre cette course-poursuite. Et c'était à la fois fascinant parce qu'il se déroulait un événement dramatique, mais en même temps parce que c'était rien. Les autoroutes avaient été vidées, c'était désert, et il y avait juste cette voiture blanche que l'on suivait. Et aucun événement, et c'était impossible de s'en détacher. Et effectivement, la question était, est-ce qu'il va se suicider ou non ?
C'est ça, c'est une scène hypnotique. Il y a des millions de personnes qui vont suivre et qui va d'ailleurs marquer beaucoup pour la suite de l'enquête. Parce qu'on peut se dire, et les avocats d'ailleurs vont commencer à jouer cette carte, de dire que finalement, O.J. Simpson, il est un peu dérangé. Ça va pas bien dans sa tête.
Voilà. C'est ça, et pourquoi est-il dérangé ? Est-ce que c'est parce qu'il est bouleversé par la mort de son ex-femme, ou est-ce que parce qu'il est coupable de la mort de son ex-femme ?
Philippe Coste, vous êtes aux États-Unis et invité ce soir dans l'heure du crime. Alors, on parle de cette course-poursuite. C'est le début, là, c'est un choc pour l'opinion, mais c'est le début d'un feuilleton. On sent que c'est une histoire qui n'est pas anodine, si je puis dire.
Oui, c'est le premier grand spectacle de cette affaire. Et c'est le premier spectacle le plus dysfonctionnel. Mmh. On se rend compte que quelque chose est tordu, ne va pas bien, cette affaire promet des rebondissements, des drames humains. Et c'est un peu l'hameçon, je dirais, pour l'opinion américaine, qu'un événement assez extraordinaire va se produire. Et que, en plus, il y a un aspect assez symbolique dans cette poursuite, parce que j'étais à New York, je voyais ces voitures de police en quinconce, parfaitement alignées, comme à la parade, derrière cette voiture, avançant sur une autoroute complètement vide. Il y avait l'aspect, prenons parti, est-ce qu'on est pour ou on est contre OG ?
Déjà à ce moment-là.
Déjà, il y a cet aspect, mais qui est-il ? Et bon, il y avait énormément de gens qui l'encourageaient extraordinairement, qu'il encourageait presque à fuir. Personne ne, tout le monde se demandait ce qui se passait réellement.
Bien sûr, en fait,
son attitude sur cette autoroute était déjà un aveu d'une certaine manière.
Ouais, en tout cas, c'est une fuite. Ça paraît comme être une fuite de toute manière. Ouais. Et puis, il y a effectivement ce que vous dites. Il y a des gens qui sont sur les ponts des autoroutes qui encouragent O.J. Simpson. Mmh. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Et on va le suivre partout. Nicole Bacharan, alors on sent que c'est une histoire extraordinaire. Et pour une histoire extraordinaire, O.J. Simpson, il est déjà entouré d'avocats extraordinaires. On va les appeler la Dream Team.
Voilà, c'était une de ses premières Dream Teams d'avocats, au fond. Ils seront pas moins de 14. Alors, tous n'ont pas acquis la même notoriété, mais vous aviez cité Bob Shapiro, il y a Johnny Cochran, qui était le leader, au fond, de cette Dream Team, Bob Kardashian, qui est devenu célèbre à ce moment-là et beaucoup plus célèbre ensuite parce que c'est le père,
c'est le papa,
des filles Kardashian et de la fameuse télé-réalité. Alan Dershowitz qui avait défendu Klaus von Bülow, Mike Tyson, le fils de Marlon Brando.
C'est que des pointures. Il y a Francis Lee Bailey aussi qui vient de décéder, qui a fait un travail incroyable de sape du dossier.
Ils sont extrêmement puissants. Il demande extrêmement cher. Bien. Et O.J. Simpson paiera effectivement 9 millions de dollars, ce qui aujourd'hui serait encore bien, bien davantage.
Philippe Coste, vous parliez tout à l'heure, c'était un début d'aveu, vous disiez. Alors ça, c'est intéressant. Le dossier d'entrée, là, on n'a pas démarré encore dans l'enquête pure et dure, mais d'entrée, il est compliqué pour Simpson. C'est vraiment le suspect idéal dans cette histoire.
Oui, on retrouve son sang, on retrouve le sang de ses victimes dans sa voiture, on retrouve un gant qui lui appartient maculé de sang des deux victimes, à la fois chez Nicole, sur le perron de Nicole et dans son jardin. Son emploi du temps ne tient pas à la route à cause après les révélations du chauffeur. Son voisin, du moins le jeune garçon qui loge dans une maison, un guest house à l'entrée de la maison, a entendu quelqu'un passer derrière la maison et heurter les airs conditionnés le long de sa fenêtre à une heure qui correspondrait grosso modo au timing du retour.
Oui, c'est ça.
De O.J. Simpson du crime. Il y a énormément d'éléments.
Ça fait beaucoup
pour un seul homme, vraiment.
Pas de juge d'instruction aux États-Unis, c'est directement au tribunal que tout va se jouer et que tout va être mis sur la table. Procès qui s'annonce d'ores et déjà comme le procès du siècle et qui, de toute évidence, va durer des mois. Le 22 juillet, Orrental James Simpson, le nom complet d'O.J. Simpson, comparaît devant la Cour supérieure de justice de Californie. Il plaide non coupable en précisant non coupable à 100%. Commence alors la constitution du grand jury. Le procès proprement dit s'ouvre, lui, le 24 janvier 1995. Si O.J. Simpson est reconnu coupable des deux homicides, il peut être condamné à la peine de mort. Les procureurs Marcia Clark et Christopher Darden ont été choisis pour conduire l'accusation. Accusation qui se place clairement sur le terrain de la vengeance d'un homme jaloux, obnubilé par un divorce qu'il ne voulait pas. Il a tué par jalousie. Il a tué parce qu'il ne pouvait plus la posséder, dit l'un des procureurs. L'enquête fait apparaître que Nicole Brown avait fait l'objet de fréquentes violences domestiques. Le pré-contrat de mariage prévoyait ainsi qu'elle ne travaille pas. O.J. lui avait cassé un bras pendant une bagarre. Pour éviter qu'il n'aille en prison, l'épouse avait invoqué une chute à vélo. Le 3 février, Denise Brown, belle-sœur de Nicole, témoigne en larmes. Elle décrit une femme battue, vivant sous la menace permanente de O.J. 62 incidents violents sont ainsi répertorié dans la vie du couple. 8 avaient fait l'objet de signalements auprès de la police. L'emploi du temps de O.J. Simpson le soir du crime est méticuleusement décortiqué. Il apparaît que les meurtres ont été perpétrés entre 22h et 22h30. Alan Park, le chauffeur de la limousine appelé pour emmener O.J. à l'aéroport, indique que personne ne répondait à l'interphone à 22h40. 5 minutes plus tard, le chauffeur a aperçu une silhouette approcher de la porte d'entrée côté sud, à l'endroit justement où a été découvert un gant ensanglanté. Au bout de quelques minutes, la lumière s'est enfin allumée dans la maison et Oji a répondu à ses appels. Alan Park, interrogé par les avocats de l'accusé, ne peut pas certifier que l'ombre fugitive qu'il a vue était bien O.J. Simpson. Les avocats ne croient pas à cet emploi du temps. Ils indiquent qu'à 21h40, O.J. Simpson était chez lui avec un ami, l'acteur Kato Kalin. Il n'aurait pas eu le temps de s'absenter pour aller tuer Nicole et le serveur revenir chez lui et ouvrir la porte au chauffeur. Sa défense, c'est que O.J. Simpson est en mauvaise posture. Elle martèle l'argument selon lequel les procureurs veulent un coupable sur mesure, un homme qu'il faut condamner à tout prix. Philippe Coste, vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir et en direct des États-Unis. On a parlé, et vous avez parlé de cette course-poursuite sur l'autoroute. Il y a maintenant ce procès qui s'ouvre. Alors, je suppose que lui aussi, ce procès, il va être suivi par toute l'Amérique.
Oui, il est suivi par toute l'Amérique d'abord parce que c'est une célébrité, c'est un personnage qui est un... Il faut voir ce qu'était O.J. Simpson pendant les années 80 et jusqu'au début des années 90. C'est une personnalité familière, présent, omniprésent. Il a joué dans des comédies, dans des films d'Hollywood. C'est un personnage d'allure accessible. C'est aussi pour énormément d'Américains blancs, le noir acceptable. L'homme dont on... qui, d'une certaine manière, renvoie un reflet flatteur aux blancs en leur disant qu'ils ne sont pas racistes puisqu'ils ont comme idole une personne qui est un sportif, ex-sportif, qui est noir. Donc il y a toute cette relation extraordinairement familière et un petit peu, elle aussi, je dirais, ambiguë et pernicieuse d'une certaine manière.
C'est quelqu'un qui a réussi. Encore un mot, Philippe Coste, le procès est télévisé, il est en direct. Hein. Il y a une chaîne de télé qui le retransmet.
Oui, c'est les débuts de Court TV. On a trouvé un filon dans les procès. Ça attire énormément de public. Mmh. Les conditions aussi de tournage, je dirais, de présence des caméras sont encore assez peu réglementées. Les avocats, surtout ceux de Jesse Sum, savent parfaitement utiliser les caméras. Ce sont des avocats d'Hollywood, ce sont des avocats qui sont présents dans le monde des stars, dans le monde des médias. Ils savent parfaitement utiliser le pouvoir de l'image et s'en servent dès le départ. Alors que les procureurs sont beaucoup plus gauche, beaucoup moins habitués à cet instrument et ne commenceront à essayer de l'utiliser que beaucoup plus tard.
Et ça va sans doute jouer effectivement cette question d'image, cette retransmission de brut, effectivement de décoffrage. Il n'y a pas de filtre sur ce procès. Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Alors évidemment, procès à grand spectacle, mais qui, au fond, juridiquement, commence très mal pour O.J. Simpson. Il n'est pas en bonne posture au début.
Disons qu'il a tout contre lui. Les apparences, les indices, les tests ADN et le mobile. Parce que ressortent, pendant le procès, des enregistrements de la police, du numéro d'urgence de la police, 911, que Nicole avait appelé plusieurs fois, et dont une fois, où elle appelait en disant « j'ai peur, il est là, il me menace », et on entend très clairement O.J. Simpson qui tape dans la porte tant qu'il peut en proférant des menaces épouvantables alors qu'ils sont déjà divorcés. Donc c'est pas le divorce, comment dire, c'est pas le mariage qui se passait mal. Le divorce se passait mal. Il n'en voulait pas. Ressortent aussi des photos de Nicole Brown avec le visage, les yeux au beurre noir, le visage tout tuméfié. Donc il y a ce mobile, un homme jaloux, violent, qui n'accepte pas que cette femme l'ait quitté. Et puis les indices, ce que citait déjà Philippe tout à l'heure, les gants où on trouve le sang d'objet, une chaussette d'objet où on trouve le sang de Nicole, la voiture maculée de sang, objet qui porte des coupures aux mains, donc qui donne à penser que le couteau effectivement avait joué son rôle.
Les coupures, il dira, je me les suis faites à Los Angeles, dans la chambre d'hôtel, j'ai cassé un verre, etc.
Voilà.
Donc voilà, ça va être son explication. Juste encore un petit mot très court, il a quelle attitude au procès, OG? Il se tait
Il est extrêmement sûr de lui, extrêmement décontracté, je dirais même, et les avocats font tout leur possible pour lui intimer de se taire, parce qu'en fait, il n'a pas à parler dans ce type de procédure. Ils aimeraient qu'il fasse un petit peu profil bas.
Des avocats qui cherchent la faille et vont finir par en trouver une dans ce dossier où l'accusation est pressante. Une simple faille qui ne va cesser de s'agrandir pour que O.J. Simpson puisse respirer à nouveau. En l'absence de témoins directs des meurtres, l'accusation se concentre sur les indices matériels et mise gros sur l'ADN. Pas moins de 108 prélèvements ont été effectués sur la scène de crime chez O.J. Simpson et dans sa voiture. 61 gouttes de sang retiennent particulièrement l'attention. Sur quelques-unes de ces gouttes collectées près des corps, l'ADN de O.J. est présent. Une chance sur 9,7 milliards de se tromper, affirment les experts. Même présence de l'ADN d'O.J. sur le chemin qui mène à son véhicule ainsi que sur une paire de chaussettes retrouvées dans la chambre du champion. Cette fois, cet ADN-là est mélangé à celui de Nicole. La défense fait feu de tout bois pour démontrer que ces tests ne sont pas fiables, que ces traces ADN ont été déposées par mégarde par des enquêteurs peu précautionneux. Selon eux, la scène de crime a été contaminée. Les responsables scientifiques appelés à témoigner sous serment finissent par admettre que des erreurs ont été commises. Des experts, par exemple, qui n'ont pas changé de gants ou ont manipulé les flacons. Quant aux vannes qui transportaient les échantillons, ils n'étaient pas réfrigérés. La défense de O.J. Simpson marque des points avec l'ADN et va plus loin. Elle affirme que la scène de crime a été truquée. L'un des détectives, Mark Furman, aurait lui-même déposé le deuxième gant ensanglanté dans l'allée de la maison de O.J. Simpson dans le but d'établir un lien parfait avec le double meurtre. Interrogé sur ce point, le policier invoque le cinquième amendement qui lui permet de ne pas répondre, un silence qui sème le doute. Devant les caméras, O.J. Simpson enfile les fameux gants qui se révèlent trop étroit. Le détective Mark Furman n'en a pas fini avec les avocats. Il est accusé d'avoir voulu faire tomber O.J. par racisme. Le 29 août, les jurés sont ainsi invités à écouter un enregistrement audio dans lequel le policier tient des propos racistes. Il prononce le mot « nigger », nègre, à 41 reprises. Furman démentira tout racisme, mais son attitude et les faiblesses policières portent le plus rude des coups à l'accusation. Les procureurs savent alors que le procès est en train de leur échapper. Philippe Coste, en direct des États-Unis, j'ai envie de dire, quel revirement incroyable. On le croyait condamné et condamnable presque, O.J. Simpson. Et là, c'est tout le contraire qui se produit.
Oui, alors les avocats utilisent tous les moyens. D'abord, du point de vue de l'ADN, ils ont parmi l'équipe d'avocats un des premiers avocats qui est spécialisé justement dans cette technologie émergente, qui est celle de l'expertise ADN. Il s'appelle Barry Check. Et Barry Check, qui se bat normalement à New York pour faire admettre dans les cours de justice justement l'ADN comme une preuve permettant d'innocenter les suspects, a été cette fois tellement payé qu'il a été payé justement pour faire le contraire, pour jeter le doute d'une certaine manière sur sa science, mais avant tout sur les conditions de manipulation dans le laboratoire. Et là, c'est bon, et ça marche parce que c'est une science assez nouvelle. Ensuite, il y a l'histoire de Mark Furman. Oui. Mark Furman est effectivement un ripoux raciste et autres. Mais faut pas oublier qui est O.J. Simpson à cette époque-là. O.J. Simpson n'a strictement, il est l'ami des policiers de Brentwood qui viennent piquer une tête dans sa piscine tous les soirs. Il est le premier à se plaindre auprès des policiers de coin de la présence excessive de noirs bizarres qui traînent dans sa rue. C'est un homme qui n'a jamais frontalement été victime de racisme ni quoi que ce soit. Et d'autre part, Mark Furman, aussi raciste soit-il, le soir, lorsqu'il est sur la scène du crime et devant les corps de Nicole et de Ron, ne sait même pas qu'il y a un lien avec O.J. Simpson. Ce n'est que beaucoup plus tard.
Effectivement, il ne sait pas qui est Nicole Brown à ce moment-là.
Ouais.
Donc c'est très intéressant. Nicole Bacharan, on écoute Philippe Coste, cette espèce de ces accusations de racisme qui vont miner à ce moment-là le procès, c'est une carte qui est abattue délibérément par les avocats.
Ah mais absolument, ils y vont, si j'ose dire, avec beaucoup de clarté d'esprit, ils savent exactement ce qu'ils font. Et c'est vrai que Mark Furman, donc le policier ripoux qu'évoquait Philippe, ça révélera leur atout maître, parce qu'il y a des enregistrements qui vont ressortir, où il tient des propos absolument effroyables. Ouais. Vous en citiez une partie, ça va très très loin. C'est tous ces noirs, il faut les mettre en tas sur un bûcher et les brûler.
C'est une violence extrême.
Parlons de O.J. Simpson, de toute façon j'aurai sa peau, enfin. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les avocats, de manière très maline, je dois dire, n'ont pas demandé au jury la vraie question, même si elle a été posée formellement. Est-ce que O.J. Simpson est coupable du double meurtre ? Ils se sont arrangés pour que la vraie question, telle que les jurés l'ont ressentie, c'est « Pensez-vous que la police de Los Angeles soit raciste et capable de coincer un noir par racisme ?» Et les membres du jury, où il y a 9 noirs sur 12 personnes, ne sont pas du tout dans le monde de O.J. Simpson, ce monde très privilégié que l'on décrivait à l'instant. Ce sont des gens lambda, comme vous et moi.
Tout à fait.
Et quand on leur demande, vous croyez que c'est possible qu'on ait bidouillé la scène de crime pour nuire à un noir ? La réponse est oui.
La réponse est oui.
Simpson est innocent.
Évidemment, le doute est maintenant dans les esprits.
Il faut introduire le doute.
Voilà, et là, c'est du grand art d'avocat, parce qu'on retourne la situation sans poser la vraie question et en la détournant. C'est une démonstration extraordinaire. Philippe Coste, un mot sur la scène des gants qui est filmée par la Court TV, par la télé qui filme le procès. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On donne à O.J. des gants identiques, c'est ça ?
Ce sont les gants. C'est un des gants de la scène de crime qui était. Mais on lui donne. C'est une erreur monstrueuse que commet la défense, car ils savent très bien qu'il y a de grands risques que ce gant ne soit pas à la bonne taille ou que la démonstration ne soit pas convaincante quand O.J. Simpson va le mettre. Il suffit qu'il tende un peu ses doigts. Ce sont des gants de golf assez fins qui sont restés dans une boîte pendant des mois et des mois dans une boîte pour prof, qui sont certainement desséchés, et on voit bien que O.J. Simpson rentre la main dedans avec réticence, écarte les doigts et autres. Mais ce qu'il faut, ça, bref, le gant a l'air de ne pas aller. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que pendant des heures avant, Johnny Cochran, qui est l'artiste de parmi les avocats, a répété ce slogan: If it doesn't fit, you must acquit. Si le gant n'est pas à la bonne taille, vous devez acquitter.
Vous devez acquitter.
Et donc, les procureurs se jettent dans la gueule du loup et commettent l'erreur d'amener ce gant parmi les preuves visibles du procès.
Résultat, le 3 octobre 1994, O.J. Simpson est acquitté après un délibéré de moins de 4 heures. Certains jurés le croyaient coupable, mais ont été troublés par les erreurs policières. L'ancien champion est un homme libre. O.J. Simpson, homme libre, récupère ses enfants et quitte la Californie pour aller s'installer en Floride. Bien que la justice pénale l'a considéré comme non coupable du double meurtre, il est poursuivi au civil. 4 mois de procès en 1995 à Santa Monica. Le but des parties civiles, les familles de son ex-épouse et celle du serveur de restaurant, est de démontrer son implication. Simpson avait nié, par exemple, avoir possédé des chaussures italiennes dont les traces avaient été retrouvées sur la scène de crime. Les avocats produisent alors des photos où il les porte, image absente du premier procès. O.J. sera reconnu coupable au civil, considéré comme responsable des crimes. Il devra s'acquitter de la somme de 33,5 millions de dollars à verser au bénéfice des familles. O.J., que ses avocats ont souvent décrit comme fragile et perturbé, refait parler de lui pour le vol d'une voiture. En 2007, il est arrêté à Las Vegas. Il est cette fois accusé de vol à main armée, d'enlèvement et de séquestration dans une sombre histoire de revente de trophées sportifs. Au regard de la violence des faits, il écope de 33 ans de prison. Il sera libéré par anticipation le 1er octobre 2017. Plus de 25 ans après les meurtres de Nicole Brown et Ron Goldman, des enquêteurs privés font font régulièrement émerger de nouvelles pistes ou des confidences inédites sur cette tragédie. Un dossier jugé mais qui n'est pas refermé, un cold case. Le meurtrier de l'ex-épouse et du serveur de restaurant, cet homme que la justice californienne avait cru pouvoir identifier sous les traits de O.J. Simpson, cet homme-là. Court toujours. Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis, est l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime. On fait un tout petit retour en arrière. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de l'acquittement de O.J. Simpson. Alors, encore aujourd'hui, évidemment, le pays n'est pas coupé en deux, mais enfin, les avis divergent là-dessus. Coupable, pas coupable, la question court toujours. On l'attendait, cet acquittement, avec une espèce de foi, de pression incroyable.
On attendait le verdict. Et vous savez, aux États-Unis, il y a des moments comme ça où on a comme une photo flash de la réalité des relations raciales. Et pour les Blancs, il était évident que cet homme avait tué deux personnes et devait être condamné. Et pour les Noirs, il était évident que, ou il était innocent, ou au moins, alors que tant de Blancs très riches se débrouillaient pour acheter leur liberté, parce que la justice américaine est vraiment une affaire d'argent, très souvent, eh bien, au moins, il y en avait un des leurs qui peut-être pouvait jouer ce jeu-là et être acquitté parce que il avait les moyens de se payer les meilleurs avocats. Et tout le monde attendait le verdict, et je me souviens qu'il y a eu des photos qui ont été prises au moment du verdict, des photos de presse, où il y avait des groupes de gens dans un bar, dans un salon de coiffure ou autre, et où on voyait, au moment du verdict, les Blancs sidérés, la tête dans les mains, effondrés, et les Noirs sautant en l'air, hurlant de joie. Ouais. Et on s'est tous dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe?
C'est ça, vous dites très bien, c'est la photo d'une Amérique, hein, finalement, un instantané à ce moment-là. Philippe Coste, en direct depuis les États-Unis, je parlais des parties civiles, et notamment de cette famille, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'elle était un petit peu derrière, au second plan, c'est la famille Goldman, les parents de la deuxième victime, du serveur de restaurant. Je crois que vous les avez rencontrés, Philippe, aux États-Unis, ses parents.
Oui, j'ai rencontré Kim et son père en 2017, des années après. Ce sont les grands oubliés de cette affaire, parce que en les rencontrant, on réalise à quel point ces gens étaient complètement déconnectés même de l'univers de tensions raciales qui avaient pu exister, même des émeutes de Los Angeles, qui expliquent en grande partie les émeutes de Los Angeles de 1992 en raison des violences policières, qui expliquent en grande partie l'attitude du juré vis-à-vis des jurés vis-à-vis d'O.J. Simpson deux ans après. Cette famille était une famille qui ne vivait une vie de grande quiétude. Ron était serveur dans un restaurant chic d'un quartier chic. Le père travaillait, Fred travaillait dans le marketing. Kim était étudiante et voulait faire de la psycho. Enfin, c'était une famille qui fonctionnait très unie et qui fonctionnait bien. Ce sont été les grands perdants de cette affaire. D'abord, ils n'ont récupéré après le procès civil que quelques sous. Franchement, pas grand-chose. Ouais. Parce que après un procès civil comme celui-là, même si on déclare O.J. responsable, on donne à la partie adverse un papier leur disant vous avez droit à 33 millions maintenant, débrouillez-vous pour les récupérer chez O.J. Simpson. Ouais. Lui-même avait viré tous ses fonds dans différents comptes, sa retraite ne pouvait pas être prise. Bref, ce que la famille Goldman a réussi à faire, c'est avoir un pouvoir de nuisance extraordinaire sur la vie de O.J. Simpson en préemptant tous ses gains. Pas l'argent qu'il avait déjà sur ses comptes, mais chaque fois qu'il touchait un sou pour une présence à la télévision, chaque fois qu'il gagnait, qu'il vendait un trophée, chaque fois qu'il le moindre, ils arrivaient par leur acharnement, surtout l'acharnement de Fred, à récupérer assez d'argent. Ça obligeait O.J. Simpson à aller de plus en plus loin pour justement récupérer de l'argent, et ce qui explique en grande partie cette stupide histoire où il pensait que des trophées lui avaient été volés et étaient en vente à Las Vegas, et il est allé aller récupérer ce qu'il croyait être son bien dans la chambre d'hôtel de deux marchands de trophées sportifs à Las Vegas.
Et oui, c'est vraiment un petit peu la chute de l'idole, on peut le dire, parce que il a tout perdu, il va continuer effectivement à s'enfoncer dans ces histoires sordides. Nicole Bacharan, qu'est-ce que ça a changé, ou pas d'ailleurs, l'affaire O.J. Simpson dans le fonctionnement de la justice américaine ou dans l'image qu'on en a?
Ah, ça a changé beaucoup de choses parce que déjà la question de le côté éthique et l'équité de cette justice a été évidemment remise en cause. Le lien direct entre un acquittement et la puissance financière de l'accusé. Mais également le fait que le procès ait été télévisé. Ça a changé la télévision aussi. Hein. Et ça a changé la manière dont les avocats et dont les procureurs préparaient les procès. Et puis ça a ouvert beaucoup d'interrogations sur les relations raciales et des interrogations qui, on le sait, sont loin d'être closes et apaisées aujourd'hui.
Ça reste encore le procès du siècle. C'est un peu un cliché, on l'a dit.
Oui, du XXe siècle.
Du XXe siècle, bien sûr.
Du XXe siècle, c'est vrai.
Il n'a pas été égalé jusqu'à présent par l'écho qui a été donné.
Non, je ne crois pas que sur le plan judiciaire, il n'y ait rien eu de comparable. Et c'est vrai qu'à la sortie de tout ça, O.J. Simpson, d'ailleurs, pour tenter de gagner de l'argent, a publié un livre. Et si je l'avais fait, il décrit très précisément le meurtre. Et puis, il est tombé bas, puis très bas, puis très très bas. C'est un homme libre aujourd'hui.
C'est un homme libre aujourd'hui. Philippe Coste, le tout dernier mot, vraiment, dernier mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Il devient quoi, O.J. Simpson, aujourd'hui, en deux mots?
Oh, il est sous ce qu'on soit en liberté conditionnelle. En principe, pendant les 20 ans, puisqu'il n'a fait que 9 ans des 33 ans, il devrait être sous supervision judiciaire. Il n'a pas le droit de sortir de Las Vegas, enfin du moins du Nevada. Il doit demander la permission pour énormément de choses. Il a une vie plutôt confortable grâce à ses retraites et à des fonds qui ne peuvent pas être saisis justement par Fred Goldman. Mais il est au... ses avocats lui ont conseillé à vie de rester discret.
Merci beaucoup Philippe Coste et Nicole Bacharan d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire O.J. Simpson, cauchemar judiciaire de l'Amérique, un feuilleton auquel il manque toujours l'ultime épisode, la vérité. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.